France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Les Français expriment une défiance envers le monde politique à un niveau jamais mesuré. Le baromètre annuel du Cevipof montre aussi une défiance croissante envers la démocratie en général. Décryptage dans un instant de Stéphane Robert. Ils réclament du fric pour les facs. Syndicats étudiants et personnels des universités et de la recherche publique dénoncent le manque de moyens et la fermeture de certaines formations. Reportage d'Hakim Kasmi. Deux conceptions de l'intelligence artificielle s'affrontent au sommet de Paris. 58 pays plaident pour un dialogue mondial et une coordination renforcée de la gouvernance de l'IA. États-Unis et Royaume-Uni veulent au contraire moins de régulation, analyse de Frédéric Seyss. Enquêtes et arrestations se multiplient en Turquie. Elles visent surtout le CHP, premier parti d'opposition. Nous irons à Istanbul où une dizaine d'élus et de responsables municipaux ont été placés en garde à vue. La politique et les politiques suscitent en France une défiance de plus en plus importante. Elle atteint même, selon le baromètre annuel du Cevipof, un niveau jamais mesuré. La dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 n'a rien arrangé. D'ailleurs, la situation institutionnelle actuelle est considérée comme grave par près de 8 Français sur 10. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Le baromètre de la confiance dans la politique s'appuie sur une étude menée cette année en France, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas. Et ce constat de grande défiance est bien propre à la France.
Oui, 3 Français sur 4, selon cette enquête, affirment ne pas avoir confiance dans la politique. Et c'est effectivement une spécificité française, puisqu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, on est à des niveaux beaucoup moins élevés, aux alentours d'une personne interrogée sur 2. Ça se traduit par le fait qu'en France, une même proportion, 75% de la population, considère que le personnel politique est corrompu, beaucoup plus, là encore, qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas. Comme à chaque fois, on retrouve une vraie différence entre les élus locaux et les élus nationaux. Le maire reste l'élu le plus plébiscité, celui en qui on peut avoir confiance pour 60% des personnes interrogées. Et plus on s'éloigne en termes de proximité, plus ça se dégrade. On fait encore à peu près confiance au conseiller départemental, au conseiller régional, mais on fait moins confiance aux députés et encore moins au Premier ministre et au Président de la République, dont la parole est encore crédible pour seulement une personne interrogée sur 4. Tous les 8 indicateurs sont en baisse, vous l'avez dit, selon cette enquête, et la dissolution de l'Assemblée nationale semble effectivement y être pour quelque chose. Vous avez cité ce chiffre sur la situation institutionnelle du pays. 8 personnes sur 10 considèrent qu'elle est grave, voire très grave. Et 56% d'entre elles attribuent la responsabilité du marasme dans lequel on se trouve au président de la République. Tout ça se traduit par des sentiments très négatifs à l'égard de la politique. Les premiers mots qui viennent pour qualifier ces sentiments sont la méfiance et le dégoût. Ça se traduit également par une prise de distance avec la politique. Plus de la moitié du panel de cette enquête estime que le pouvoir est ailleurs, qu'on n'a pas besoin de la politique et que les élections ne permettront pas de changer les choses. Ce qui pourrait en revanche peut-être permettre de changer les choses, c'est l'apparition d'un homme fort, selon 73% des personnes interrogées, qui estiment qu'on a besoin d'un vrai chef pour gouverner le pays.
Stéphane Robert. La loi handicap a 20 ans, jour pour jour, et pourtant, ce texte visant à faciliter l'inclusion des personnes handicapées dans la société n'est que partiellement mis en application aujourd'hui. Plusieurs députés ont donc interpellé le gouvernement sur ce retard cet après-midi. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Aurélie.
5 des questions au gouvernement étaient en rapport avec le handicap.
Des questions venant de la droite, de la gauche et du centre. Le sujet est universel, mais il prend une tournure plus intime quand le député qui prend la parole est directement concerné. L'écologiste Sébastien Pétavy est lui-même paraplégique, il dénonce les retards dans le domaine de l'inclusion.
20 ans après la loi de 2005, vous engagez-vous, monsieur le Premier ministre, à ce que notre République reconnaisse enfin chacune et chacun de ses citoyens dans leur singularité? Vous engagez-vous à ce que chaque projet de loi intègre systématiquement son impact sur les personnes les plus empêchées de notre société? Car nous ne voulons pas de la charité, mais des droits. Celui à une vie digne, à l'éducation, à un emploi décent et à l'autodétermination.
Et c'est François Bayrou lui-même qui lui répond. Le Premier ministre annonce avoir convoqué un conseil interministériel sur les problèmes du handicap et il remercie le député pour son engagement.
Si le gouvernement avait le droit d'applaudir dans cette enceinte, je vous aurais applaudi. À la question, vous engagez-vous à ce que tout texte comporte les garanties que vous avez exigées? Ma réponse est oui. Le handicap n'est pas un amoindrissement. C'est une situation de vie à laquelle nous devons reconnaître des droits et au service de laquelle nous devons mettre la mobilisation de la nation et de ses responsables.
La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, conclut ce rare moment de concorde dans l'hémicycle en révélant avoir déposé, avec Sébastien Pétavy, une proposition de résolution pour supprimer le vote assis debout dans l'hémicycle, et ce, avec l'accord de l'ensemble des présidents de groupe.
Antoine Maret, il dénonce un budget des universités et de la recherche trop austère. Des rassemblements et assemblées générales s'organisent pour réclamer des moyens supplémentaires à l'appel des syndicats étudiants et des personnels des universités et de la recherche publique. À Paris, un rassemblement s'est déroulé dans le quartier étudiant du Panthéon, près du ministère. Hakim Kasmi s'est rendu sur place.
Salomé est en deuxième année de sciences politiques à l'université de Créteil. Avec les restrictions budgétaires, elle craint de voir encore ses conditions d'études se dégrader.
Au niveau des conséquences pédagogiques, ça va être plus de cours qui vont être faits en amphi, donc des cours à 400-500 étudiants, alors que nous on préfère les cours en TD, donc c'est-à-dire des cours où on est 30 dans une salle où on peut plus comprendre les enjeux des cours, etc. Donc en effet, c'est là, ça sonne quand même la fin de la démocratisation et de la massification de l'enseignement supérieur.
Ça a eu pour conséquence
des coûts budgétaires qui risquent aussi de réduire les formations, estime Sandra, qui est en première année de psychologie à l'université de Nanterre.
Moins de financement égale la fermeture de formations qui sont très importantes pour l'art, la culture, qui sont un peu, stigmatisées et pas prises au sérieux.
Dans ce contexte, une hausse des frais d'inscription n'est pas à exclure dès la rentrée prochaine, selon Elisa Mangiol, porte-parole de la FAGE.
Quand on sait qu'aujourd'hui 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim, on se demande comment est-ce qu'on peut même rien qu'envisager d'augmenter les frais d'inscription. Pour nous, c'est pas du tout une option et il faut vraiment pas que ça arrive et ça mettrait des milliers et des milliers d'étudiants en danger.
Résultat, les parents qui le peuvent sont de plus en plus nombreux à inscrire leurs enfants dans le privé, regrette Anne Roger, secrétaire générale du SNESUP.
Aujourd'hui, on voit déjà les familles qui, de toute façon, choisissent de mettre leurs enfants dans l'enseignement supérieur privé, parce que dans le public, il faut jouer des coudes pour obtenir des places. Et finalement, les familles qui ont les moyens préfèrent ne pas attendre et préfèrent avoir une réponse immédiatement pour savoir où leurs enfants iront étudier l'année prochaine. Donc oui, le gouvernement fait un pont d'or aux établissements d'enseignement privé, ça c'est sûr.
Actuellement, les deux tiers des universités françaises ont un budget déficitaire.
L'appel à la grève dans les écoles parisiennes a été largement suivi. Aujourd'hui, syndicats et parents mobilisés protestent contre les fermetures de classes prévues à la rentrée et la perte de décharges de directeurs d'établissements scolaires. La justice peut-elle forcer l'État à protéger les aires marines? C'est ce qu'elle a fait récemment avec les dauphins en limitant la pêche pendant 4 semaines. Les associations aimeraient qu'elle fasse de même pour les zones Natura 2000 en interdisant le chalutage dans les espaces protégés car cette technique de pêche industrielle est destructrice pour les fonds marins. Bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir.
Deux ONG déposent un recours devant le Conseil d'État pour qu'il oblige la France à protéger la biodiversité dans ces zones délimitées. Alors, on entend souvent parler de ce type de procédure engagée par les associations. Les dossiers s'accumulent. Alors pourquoi est-ce que ce recours aurait plus de chances d'aboutir que les autres, Mathilde ?
Parce que l'aire marine en question, la zone Natura 2000 de Chausey, relève du ministre et non pas du préfet. En fait, elle est à cheval sur deux régions, la Manche et le Nord. Et comme on ne peut pas adresser le recours à deux préfectures maritimes à la fois, eh bien c'est le ministère qui devient compétent. Ça a plusieurs intérêts pour les ONG. D'abord, ça porte le débat au niveau national. Et ensuite, ça rend la décision définitive, nous dit Philippe Garcia, président de la DMA, la Défense des Milieux Aquatiques.
Il n'y aura pas d'appel, d'abord. Il n'y aura pas de pouvoir en cassation. On va avoir une décision définitive. Voilà. Et donc, on oblige le Conseil d'État à confirmer ce qu'on pense. Et comme il y a déjà des décisions de la Cour d'appel derrière, là, depuis 2023-2024, eh bien, on a de bons espoirs qu'effectivement ça aille plus vite. Oui.
Que ça aille plus vite et que ça fasse jurisprudence complète, Raphaël Janel, son avocate, car les ONG ont déposé un deuxième recours qui concerne la zone Natura 2000 de Banc-des-Flandres, près de Dunkerque, et cette fois devant le tribunal administratif de Rouen.
Disons qu'on imagine qu'il y a des chances qui suivent le Conseil d'État et après l'idée c'est de pouvoir dupliquer ces décisions qui vont être rendues dans d'autres zones Natura 2000.
Voilà, l'objectif c'est d'obtenir des décisions en cascade et de forcer l'État à se mettre en conformité avec la directive Habitat qui date de 1992. C'est la seule manière d'avancer aujourd'hui, s'agace Mathilde Olivier, sénatrice écologiste.
200 recours qui sont faits alors que d'un point de vue politique, d'un point de vue législatif, les choses n'avancent pas.
Il faut accélérer le mouvement, conclut-elle. Une proposition de loi en ce sens sera déposée début mars. Quant à la décision du Conseil d'État, elle n'est pas attendue avant au moins 2 ans et demi.
Mathilde Cariou. À Marseille, le chantier de restauration de Notre-Dame-de-la-Garde a démarré. Il s'agit de remettre en état les pierres de la basilique et de redorer la statue de la Vierge Marie qui veille sur la ville. La bonne mère doit être recouverte de quelques 30 000 feuilles d'or. Mais la première étape, Mathilde Vinceneux, c'est l'installation des échafaudages.
40 tonnes d'échafaudages vont venir envelopper le clocher de la basilique jusqu'au point le plus haut de Marseille, la couronne de la Bonne Mère, l'architecte Xavier David.
Il nous faut 7 semaines, à compter d'aujourd'hui, pour refermer entièrement la cage métallique. On verra quand même la silhouette de la statue. Le plus délicat ici, c'est l'altitude. Vent extrême. Quand il y a du vent à Marseille, du Mistral, vous êtes un peu bousculé. Mais quand vous êtes là-haut, vous avez sans doute 100 km de force de vent en plus.
C'est à l'abri du vent, de la pollution et des embruns que les doreurs devront travailler pour déposer les 30 000 feuilles d'or sur la statue de la Bonne Mère, le recteur de la basilique, Olivier Spinoza.
C'est une dame qui a plus de 150 ans. Donc il faut la restaurer pour qu'elle puisse continuer à briller et être la fierté des Marseillais.
La redorure commencera à l'automne. Avant ça, il faudra restaurer les pierres et les anges. Les ouvriers et les outils ont été bénis. Christophe Serna est directeur d'exploitation pour l'une des entreprises en charge de la restauration.
Et on est extrêmement heureux de travailler sur cet ouvrage. C'est le chantier d'une vie, ça. C'est le chantier vertigineux, oui. Une vue à 360 degrés sur Marseille.
Pendant toute la durée des travaux, l'intérieur de la basilique restera ouvert au public. Des travaux entièrement financés par des dons. Plus €1 300 000 déjà récoltés.
Les travaux doivent durer jusqu'à la fin de l'année. Le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle s'est conclu sur un constat de désaccord. 58 pays, dont la France et l'Inde, les deux co-organisateurs, mais aussi l'Union européenne, la Commission de l'Union africaine et la Chine ont signé le texte final, prônant une coordination renforcée de la gouvernance de l'IA et appelant à éviter une concentration du marché pour que cette technologie soit plus accessible. Mais cette vision n'est pas partagée par les États-Unis, pas plus que par le Royaume-Uni. Ils ont refusé de signer cette déclaration. Finale, Frédéric Seyss.
Effectivement, lorsqu'on observe la liste des signataires, ces deux absents sautent aux yeux. Alors l'Élysée ne désespère pas que Londres finisse par paraffer le document dans quelques heures. Espoir abandonné en revanche pour la signature de la Maison-Blanche qui n'a pas expliqué son choix. Cette déclaration finale, non contraignante, est négociée par les diplomates depuis des semaines. Elle promeut une IA transparente et inclusive. Elle souligne aussi l'importance de la soutenabilité pour la planète de cette technologie très gourmande en énergie. C'est en particulier ce passage sur l'écologie qui a dissuadé Washington de signer, selon une source au sein de l'exécutif français. Mais plus globalement, c'est l'idée même d'une régulation internationale que rejettent les États-Unis. En témoigne cette charge de J.D. Vance, le vice-président américain, ce matin sur la scène du Grand Palais.
Nombre de nos meilleures entreprises technologiques doivent faire face aux réglementations européennes sur le numérique et à toute cette régulation massive qui oblige à supprimer des contenus et à lutter contre la prétendue désinformation.
À quelques mètres, Emmanuel Macron encaisse, mâchoire serrée. Si l'objectif du sommet était de démontrer qu'il existe une vision européenne distincte de celle des États-Unis, alors le contrat est rempli.
Emmanuel Macron qui a insisté sur le besoin de règles et d'un cadre de confiance pour accompagner le développement de l'intelligence artificielle a quitté le Grand Palais pour se rendre à la station F, l'incubateur de start-up fondé par le milliardaire Xavier Niel. Le président est allé à la rencontre d'entrepreneurs de la tech. Alors justement, comment ces entrepreneurs se positionnent-ils dans ce débat sur la régulation ou non du secteur? Écoutez le reportage d'Annabelle Grelier.
Ici, à la station F, Emmanuel Macron est en terrain conquis. Le président de la Startup Nation, incontestable.
On a obtenu 109 milliards d'euros d'investissements privés, français et étrangers, pour l'IA en France. 109 milliards.
Petit satisfecit au passage, en mode winner.
Et honnêtement, ce chiffre, vous auriez demandé il y a 15 jours à qui que ce soit de dire est-ce que c'est atteignable pour la France, tout le monde vous aurait dit non. Et c'est parce que vous êtes là, je suis très sérieux.
Vous entendez les jeunes pousses, les chefs d'entreprise, les chercheurs, les ingénieurs, tout cet écosystème français qui non seulement a des idées, mais aussi de l'électricité nucléaire.
Nulle part ailleurs dans le monde, ça existe. Je le dis, je fais cocorico. Quand il y a quelques semaines, on annonçait de l'autre côté de l'océan 500 milliards d'investissements pour des capacités nouvelles, ils vont devoir construire les réacteurs ou les capacités pour mettre l'électricité. Nous, on l'a déjà.
Petit tacle pour les Américains et leur rêve de dérégulation. Qu'il n'ait pas signé l'appel pour une IA ouverte, inclusive, éthique, ne veut rien dire pour les hauts salariés d'une jeune pousse.
Moi, je demande à voir sur le long terme ce que ça donne vraiment. Mais ce qui est certain, c'est que les boîtes américaines qui développent des IA, elles voient l'Europe comme leur deuxième marché derrière les US et elles peuvent pas faire la croix dessus, quoi. Elles savent très bien qu'elles pourront pas vendre en Chine. Je pense que l'Europe, c'est vu un peu comme la vache à lait pour les boîtes américaines. Enfin, ils signent pas là, ok, mais derrière, ils sont quand même intéressés pour prendre le marché. Donc voilà, je pense que ça aura pas d'impact majeur sur le long terme, cette décision-là.
Point de vue partagé par Antoine, patron de start-up.
Moi, j'ai plus ce sentiment quand je regarde l'espace US. Que c'est que la déréglementation actuelle, elle correspond aussi à une mise sous contrainte de la tech, big tech, par rapport au pouvoir politique.
Vive un IA humaniste, vive ce sommet, vive nos résultats, vive la République et vive la France.
Et c'est l'Inde qui accueillera le prochain sommet sur l'intelligence artificielle. Le Premier ministre indien Narendra Modi l'a annoncé en clôture du sommet de Paris. Et puis OpenAI n'est pas à vendre, c'est la réponse faite par Sam Altman, patron de l'entreprise américaine à l'origine du robot conversationnel ChatGPT, après une offre de rachat non sollicitée du milliardaire Elon Musk pour la somme de 97,4 milliards de dollars. Sam Altman qualifie cette offre de ridicule. Après les menaces de guerre commerciale, Donald Trump est passé aux actes en annonçant des tarifs douaniers augmentés de 25% sur l'acier et l'aluminium. Quelle doit être la réponse de l'Union européenne ? Un débat sur ce thème était organisé ce matin au Parlement européen, réuni en session plénière à Strasbourg. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Vous avez suivi ce débat Fabien, et on sent que le sujet divise les Européens.
Oui, il y a d'abord les partisans de la plus grande fermeté possible face à Donald Trump, principalement à gauche et au centre de l'hémicycle européen. L'écologiste Majdouline Sbahi tient par exemple à rappeler qu'il y a eu un précédent lors du premier mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche qui devrait inspirer les Européens.
En 2018, lorsque Donald Trump avait déjà augmenté de manière unilatérale ses règles du jeu commercial, c'est-à-dire les droits de douane, eh bien nous avions riposté sur des secteurs ciblés et symboliques aussi qui pouvaient toucher le cœur des Américaines et des Américains. Harley-Davidson, le beurre de cacahuète, etc.
Représailles douanières en mode œil pour œil, dent pour dent, durcissement des conditions de réponse à des appels d'offres européens pour les entreprises américaines ou encore un tour de vis supplémentaire sur les plateformes numériques comme X, celle d'Elon Musk, des outils à manier avec prudence, tempère la droite européenne, le Suédois Jörgen Warborn pour le Parti populaire européen.
Nous avons une boîte à outils bien remplie pour assurer notre défense commerciale et elle est prête à l'emploi, mais seulement quand la diplomatie et les négociations auront échoué.
Le Parti populaire européen, premier groupe au Parlement, qui estime toujours possible de trouver une voie de dialogue avec Donald Trump au nom de l'amitié historique et des intérêts communs entre États-Unis et Union européenne.
Fabien Cazot, en direct de Strasbourg pour France Culture. Donald Trump maintient son ultimatum de samedi pour la libération des otages israéliens par le Hamas. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou menace le Hamas de combats intenses s'il ne s'exécute pas. Nouvelle vague d'arrestations d'élus de l'opposition en Turquie. Depuis de nombreuses années, le gouvernement du président Erdogan poursuit les élus kurdes, les destituant à tour de bras. Mais depuis quelques semaines, ce sont les responsables du CHP, le Parti républicain du peuple, grand parti d'opposition, qui se retrouvent entre les griffes de la justice turque, Marie-Pierre Véraud.
Dépôt trop miné, à 6h du matin, la police a frappé au domicile de plusieurs maires adjoints d'arrondissement d'Istanbul et de membres de conseils municipaux. 10 personnes arrêtées au total, leurs domiciles et bureaux perquisitionnés. C'est la brigade antiterroriste qui a été mobilisée, car l'on parle d'une enquête pour terrorisme visant les élus. Ils sont accusés d'entente avec le parti kurde DEM lors des dernières élections pour favoriser le candidat le mieux placé. Or, ces pratiques anciennes et courantes en politique, il s'agit de se coordonner entre différents partis d'opposition. Mais lorsque l'on dit kurde, le gouvernement se raidit. Il l'a d'autant plus mauvaise que le CHP a remporté haut la main les dernières élections municipales et se retrouve premier parti du pays. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement turc n'a de cesse d'interpeller ses élus ou ses responsables, celui de la branche jeunesse dernièrement, qui risque plusieurs années de prison, ou encore le maire de l'arrondissement de Beşiktaş. Les charges sont souvent peu étayées, mais un schéma se dessine. La nasse se resserre autour du principal visé, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Les enquêtes et poursuites se multiplient à son encontre. Sa dernière apparition devant le tribunal a viré au meeting électoral contre le pouvoir. Mais ce dernier poursuit pas à pas une stratégie visant à casser l'opposition avant un nouveau scrutin, alors que l'on parle de plus en plus de présidentielles anticipées en Turquie.
Marie-Pierre Véraud, correspondante de France Culture à Istanbul. La météo, encore un temps mitigé demain. Au nord de la Seine, alternance de passages nuageux et d'éclaircies. De la pluie sur l'Alsace-Lorraine et plus au sud sur les départements côtiers de PACA, le Languedoc et les Pyrénées. Sur le reste du pays, de belles périodes ensoleillées. Au petit matin, il fera entre moins 1 en Normandie et 10 en bord de Méditerranée. Les maximales iront de 6 à 15 degrés du nord au sud.